Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Entre constats et états d'urgence, entre grands combats et petits gestes du quotidien, notre chère planète, c'est le podcast Environnement du Dauphiné Libéré.
On dénombre de plus en plus de candidats vers les plus hauts sommets de la Terre, où la vie permanente est impossible, passé 5500 mètres. En raison de la baisse de la pression atmosphérique, la quantité d'oxygène disponible diminue drastiquement. Depuis 18 ans, l'Institut de formation et de recherche en médecine de montagne, basé à Chamonix, développe les connaissances sur les pathologies liées à l'altitude, comment les prévenir et y faire face. Ancien médecin du secours en montagne, Pascal Zellner, son président, cofondateur avec Emmanuel Cauchy, alias docteur vertical, disparu il y a 5 ans, nous dévoile quelques principes de base pour éviter qu'une ascension ne vire au drame. Un reportage d'Antoine Chandelier.
Pascal Zellner, vous êtes le président de l'IFREMONT. Ça fait 18 ans que ça existe. Quelle est la mission de cet institut ?
Eh bien, mission, elle n'a pas bougé depuis le début. Il y avait, il y a plusieurs pôles. Un pôle de recherche sur la médecine de montagne, un pôle de formation, voilà, et d'échange. C'est-à-dire pouvoir communiquer, ce qu'on a mis un petit peu de temps avec Manu lorsqu'on a fondé l'institut.
Emmanuel
Cauchy, voilà. Former les gens, puisque l'altitude et puis les pathologies de l'altitude restent encore très méconnues par le grand public, mais également par nos collègues médecins, qui ont une pathologie qui n'est pas très entraînée et qui a quand même ses spécificités.
Alors l'IFREMONT est basé aux hôpitaux du Mont-Blanc, hein ?
Est basé oui, à Chamonix. C'est une structure qui est différente des hôpitaux Mont-Blanc. C'est une association voisine de Saint depuis le début, voilà. Donc purement associative. Et toutes les formations qu'on délivre sont payantes, mais on se sert de cet argent pour financer la recherche, et ce qui nous permet d'être indépendants sur nos projets de recherche, qui sont surtout des projets de recherche appliqués, c'est-à-dire qu'on ne va pas faire de recherche fondamentale, on va chercher à améliorer la pratique, la technique, les conditions sanitaires en zone de montagne.
Recherche, formation, et puis aussi, vous faites de l'assistance.
Alors, oui, depuis dans le projet initial, on avait prévu de créer un centre de détresse international pour les alpinistes, les gens qui vont dans des pays où il n'y a pas de call center d'urgence. Voilà. D'abord pour dépanner nos potes qui étaient dans la mouise, et puis ensuite, parce que le service rendu était évident, les différentes études préparatoires qu'on a des publications ont montré que ça avait du sens. Ça sauvait une vingtaine de vies par an, donc voilà. Et puis, lors du dernier projet de recherche, que ce soit le Conseil de l'Ordre, que ce soit l'Europe, nous a obligés, entre guillemets, à créer une structure médicale dédiée à cette activité qui s'appelle Altidoc, voilà, qui est différente de l'IFREMONT, qui s'appuie sur les connaissances scientifiques de l'IFREMONT, mais effectivement qui offre moyennement finance, même si les médecins ne sont pas rétribués, ce conseil médical à distance à tout aventurier qui en aurait besoin.
Alors aujourd'hui, on a suivi une formation spéciale pour se préparer à la très haute altitude, c'est-à-dire plus de 8000 mètres. Hein. Aujourd'hui, les alpinistes sont insuffisamment préparés à ce type d'attention.
Alors je dirais pas ça, je dirais que le plus souvent, les alpinistes qui vont viser ces altitudes de plus de 8 mètres, ils ont quand même la culture, l'habitude de l'altitude. Néanmoins, il y a quand même des petites règles qui est toujours bon de rappeler. La grosse cible de la prévention, c'est surtout les trekkers et les trekking peaks, c'est-à-dire les sommets qui sont considérés comme plus faciles, un petit peu moins hauts, comme le Merapi, le Kilimandjaro.
6000 mètres d'altitude.
Voilà, 6000 altitudes, qui eux sont potentiellement pourvoyeurs de nombreuses pathologies, déjà parce que la durée de séjour n'est pas forcément suffisante pour avoir une acclimatation complète, et puis parce que c'est une population qui n'a pas forcément la culture en montagne et la culture de la très haute montagne comme les alpinistes.
Quel est le délai raisonnable pour s'acclimater à une ascension de très haute altitude ?
Bah, l'acclimatation, maintenant, on la connaît bien. On a pour habitude qu'il faut environ 3 semaines pour avoir l'acclimatation complète, ou entre 300 à 400 heures d'exposition à une altitude d'au moins 3000 mètres. Ça, c'est la bonne nouvelle, c'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de rester les 400 heures consécutives à 3000 mètres, mais on peut les fractionner avec de la vie normale, de la vie à l'altitude normale tous les jours. Mais il faut cumuler cette dose de manque d'oxygène, d'hypoxie, pour que notre corps ait mis en place les adaptations à l'altitude. Ça ne veut pas dire que notre corps sera aussi performant à 5000 qu'à zéro, mais qu'il va moins souffrir de l'altitude.
Ok, une première semaine qui est la phase de préacclimatation, on va dire, c'est ça?
Oui, qu'on la fasse à la maison avec une tente hypoxique ou, ce qui est à ma préférence, en terrain naturel, lorsqu'un trek de préacclimatation a déjà des altitudes qui sont impressionnantes, hein, 4000 mètres. C'est vraiment la semaine où tout va jouer, parce que si on n'est pas raisonnable, on va détruire notre corps et on ne verra jamais la fin de l'aventure.
Voilà. Donc c'est une semaine où il faut plutôt se reposer en altitude, il faut modérer ses efforts.
Classiquement, on va dire qu'il faut que tous les efforts soient en dessous du premier seuil respiratoire, et si on a un cardiofréquencemètre, que ça ne dépasse pas 75% de la fréquence cardiaque maximale.
Les 2 à 3 semaines qui suivent, qu'est-ce qu'on peut faire ?
On reste toujours dans ce seuil-là. Simplement, on va pouvoir mettre en place des stimulus hypoxiques plus importants. C'est-à-dire qu'on va pouvoir, sur le parcours, faire des cols à plus de 5000 mètres, pour peu qu'on dorme à des altitudes raisonnables. Et la deuxième grande règle, c'est qu'au-delà de 3000 ou de 3500 mètres, ça dépend des hauteurs, il faut que l'altitude entre chaque nuit consécutive n'ait pas une différence de 400 mètres. Ça veut dire que si votre première nuit est à 3005, ben la nuit d'avant, elle ne devra pas dépasser 3008, 4000 mètres, et ainsi de suite, simplement pour que notre corps ait le temps de se réparer la nuit avec l'oxygène qui est à disposition à l'altitude où on est. C'est vraiment les semaines qui nous permettent d'arriver au camp de base, de passer quelques jours au camp de base, où on met en place les protections. Ensuite, des protections qui nous permettent de ne pas mourir en altitude. Ensuite, soit le trek d'altitude, le trek est fini, soit on va mettre en place effectivement le schéma de progression pour essayer de faire le 8000. Quel que soit le schéma de progression, avec trois techniques différentes, la technologie des push successifs, on va monter un camp d'altitude, dormir, redescendre, voilà, la technique d'Ansi. La technique qui, moi, m'est chère, que Paulo Grobel et François Damilano appelaient la technique escargot au début, maintenant ils appellent ça la slow altitude, où en fait on n'a pas de camp de base, on monte le camp de base justement de 400 mètres toutes les nuits, et puis dans la journée on va faire des pushes au-dessus, mais il faut que le sommet s'y prête, c'est pas tous les sommets qui s'y prêtent, voilà. Et puis la technique qui est entre guillemets la plus prestigieuse, qui est la technique alpine légère, où on part du camp de base, on va au sommet sans s'arrêter. Et cette dernière technique ne dispense pas les alpinistes d'avoir fait du stress hypoxique de haute altitude, ça veut dire d'avoir habitué notre corps, par exemple, à survivre à 7500 mètres d'altitude sans oxygène. Voilà.
Quelle est la durée d'exposition maximum à la très haute altitude ?
Bien, on sait qu'au-delà de 5500 mètres d'altitude, la vie permanente, sans déclarer une pathologie, elle va être possible pendant 15 jours, 3 semaines. Et pendant cette période, il faut savoir que la performance corporelle maximum dont on sera capable, elle sera au début de cette période-là. Plus on va être éloigné dans cette fenêtre de tir, moins nos performances sportives vont être importantes. Ce qui fait que, en fonction de la chance météo qu'on a, ben à la fin de cette période, si le créneau de beau est qu'à la fin de la période, il faut savoir qu'en cas de problème, enfin de passage très technique, on sera moins performant qu'au début. Et c'est peut-être un des éléments qui nous feront décider de ne pas faire la tentative, parce qu'on ne sera pas assez performant. Au-delà de ces 40 jours, on va déclarer des pathologies. Ça veut dire que malgré les adaptations cellulaires qu'on aura mis en place, notre corps va souffrir de façon irrémédiable du manque d'oxygène, de l'hypoxie.
Au-delà de 5005.
Ouais, au-delà de 5005. D'accord. Voilà.
La zone de la mort, c'est quoi ?
La zone de la mort que tout le monde décrit au-dessus de 7005, 7000, 7005, eh bien, c'est la zone au sein de laquelle notre temps est compté, même avec de l'oxygène. Voilà. Parce que dans cette zone-là, le stress hypoxique, il est tellement important que notre corps ne va pas pouvoir y survivre pendant, de façon très caricaturale, 24 heures. Ce qui fait que lorsqu'on entre dans cette fameuse zone de la mort, le chronomètre se déclenche. Voilà.
Les conditions, si on les compare au niveau de la mer, quelles sont-elles, tant en disponibilité en oxygène que les conditions physiologiques de l'individu?
Bon, les choses, elles sont assez simples. Au sommet de l'Everest, vous avez à peine assez d'oxygène pour assurer les fonctions physiologiques nécessaires à la vie. Alors qu'au niveau de la mer, vous avez près de 10 fois les quantités d'oxygène nécessaires à assurer l'équilibre vital. Et donc, vous voyez bien que une fois que vous êtes au 6005, qui plus est sans oxygène, si vous n'êtes pas acclimaté, vous allez mourir. Si vous êtes acclimaté, ben, les plus chanceux auront ce petit delta qui leur permettra de sommiter sans oxygène, sachant qu'il faut rester raisonnable pendant cette période, c'est-à-dire que ne pas trop tirer sur la machine à la montée pour pouvoir retourner de façon sereine et de façon safe. Parce que souvent, on va vouloir faire le sommet à tout prix, on va être très hypoxique et on va avoir ses conséquences, pas de façon immédiate, parce que notre corps aura quand même fait face, et on aura les conséquences au retour, avec parfois des conséquences qui peuvent conduire à la mort lorsqu'on a un œdème cérébral ou un œdème pulmonaire.
Est-ce qu'au sommet de l'Everest, on peut dire que l'individu est à 10% de ses capacités
Oui, on peut dire ça, effectivement.
Et le niveau d'oxygène est aussi à 10%
voilà. On ne peut pas faire grand-chose au sommet de l'Everest. Vous prenez un être vivant, sans acclimatation, vous le mettez brutalement à 10 000 mètres, il va mourir très rapidement, parce que notre corps ne sait pas fonctionner sans oxygène.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.